Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, nous sommes presque à Cannes. Il y aura deux membres de l'équipe de Cinérama qui seront présents sur la croisette pendant cette 76e édition du festival. Mais avant cela, eh bien, nous allons quand même parler de films qui sont encore sur les écrans ou qui vont arriver sur les écrans. Et puis, eh bien, nous ferons un petit détour sur Cannes pour en faire la présentation et jouer un blind test autour des Palmes d'Or. Vous devrez écouter 5 extraits de films qui ont remporté la Palme d'Or, alors des films après les années 2000. J'ai voulu faire plus simple. Bonjour messieurs, alors vous n'irez pas à Cannes, voilà, vous êtes la partie de l'équipe qui resterait ici. De quoi vous allez nous parler?
On va pas à Cannes, mais moi je vais en Argentine, donc bonjour. Et je vais vous parler de Sublime, le film de Mariano Biazin.
Et quant à toi Manu?
C'est donc La fille d'Albino Rodriguez, un film de Christiane Dory.
Et avant de parler de cette 76e édition de Cannes, nous allons parler des désirs homosexuels naissants pour un jeune Argentin. C'est Sublime, c'est Cinérama.
Bah oui, c'est le film et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
Oh oh. Lorsqu'on fait un film qui tourne autour de la musique qui s'appelle Sublime, il est possible qu'une partie du grand public tombe dans une vague de nostalgie en se rappelant le groupe du même nom et son tube planétaire de 96, Santeria. Sauf que, non, il n'en est pas ici question, même si Sublime, le film, partage une certaine candeur et esthétique du rock indépendant des années 90. Alors le réalisateur Mariano Biazin a lui-même avoué avoir eu du mal à donner un sens au titre de son film, ayant d'habitude du mal à nommer ses travaux artistiques et qu'il s'est laissé porter par le caractère spontané du mot qui l'a guidé tout le long du processus créatif. Et il est sûr que l'on sent dans ce récit qui suit au plus près un adolescent en quête de lui-même, cette déambulation comme au bord de l'eau ou tout simplement en suivant le courant, le fameux courant de conscience cher aux écrits de Virginia Woolf par exemple. Alors Sublime raconte l'histoire de Manuel, un ado de 16 ans qui a un quotidien des plus banals, hormis le fait qu'il est bassiste dans un petit groupe de rock, ce qui le rend quand même un peu plus cool que la moyenne. Sauf que même quelqu'un d'artistique et de créatif comme Manuel en vient à se poser des questions sur lui-même lors de cette étape charnière qui n'est plus l'enfance mais pas encore l'âge adulte, des questions qui traduisent une incertitude sur ses désirs et ce qu'il est vraiment. Manuel a beau avoir une petite copine avec laquelle il aimerait passer à l'acte, comme tout bon adolescent qui se respecte, mais quelque chose le bloque. Et si Felipe, son meilleur ami, son plus vieux copain et phare de son quotidien, l'attirait plus que sa copine, voire même que les filles? Sublime devait refléter un groupe de rock ou un artiste des années 90, mais on penserait plutôt à Jeff Buckley, l'auteur du mélancolique Grace, mais mis en scène par le Gus Van Sant période cinéma indépendant. Alors ce qui fait à la fois la force et la faiblesse du film, il a à la fois la fraîcheur propre à ce genre d'exercice à portée de tout jeune cinéaste désireux de l'habiter par une âme sensible et bienvenue, et en même temps il en comporte quasiment tous les moments attendus, les silences évocateurs, les flottements brumeux et la contemplation des autres pour mieux se scruter soi-même. La caméra à l'épaule est mobile mais pas trop, épousant le point de vue de Manuel pour mieux coller à l'intimité de la petite bande de jeunes qu'on va suivre dans la banalité de leur quotidien, c'est oublier toute figure de style pour mieux capter un instant qui en dit long sur les existences des protagonistes et n'a au final pas une grande personnalité. Elle se laisse porter par le vent, comme dirait Bob Dylan, et autorise sûrement plus de spectateurs à se mettre dans la peau que les cadres plus arrêtés d'un réalisateur plus tranché. Mais c'est de cette banalité que vient l'originalité d'un film qui, au fond, en manque tant. C'est que cette plongée dans la vie de tous les jours de Manuel se fait en douceur par les cadres, donc, mais aussi aussi parce qu'elle est douce, tout simplement. Plutôt que de partir sur un pamphlet sur l'intolérance, la peur de faire son coming out ou de combattre une menace qui rejette à l'homosexualité, Sublime place Manuel dans un monde qui l'accepte tout le temps, tel qu'il est, laissant donc plus de place à une chronique adolescente au fond des plus banales. L'adolescent est bien sûr inquiet de la réaction de Felipe, le jour où il apprendra les sentiments que couve son meilleur ami, mais en dehors de cette crainte légitime, parce qu'elle entretient un suspense qui va courir pendant une bonne partie du film, l'environnement du protagoniste, lui, est profondément bienveillant et ne lui souhaite que de se trouver, et le bonheur, bien sûr, qui s'en suivra. Alors, en refusant certains passages attendus dans ce genre de fiction en 2023, Mariano Biasin retrouve enfin le ton intemporel qui frappait les films peu soucieux de cocher des cases lors de leur confection, mais surtout appliqué à exploiter leur thèse pour transporter le spectateur. Ce qui constitue une bouffée d'air frais, surtout quand on se rappelle de la lourdeur pachydermique de certains films de ces derniers mois, comme Empire of Light de Sam Mendes, déjà, et à juste titre oublié, car beaucoup trop préoccupé à essayer d'avoir l'air grave sur un sujet qu'il est déjà suffisamment à l'origine sans devoir forcer les traits. Alors, dernier point agréable de ce premier film assez sympathique, c'est bien sûr la plongée, même si elle est courte, dans le garage d'un groupe de jeunes qui répètent et tentent de faire de la musique qui a du sens. Même si on aurait aimé plus de scènes autour de la création musicale qui libère notre héros, lyriciste doué pour traduire son spleen, l'essentiel est là, dans le rythme que le jeune bassiste apprend à donner à sa vie. Victor Hugo disait que la musique est du bruit qui pense, et c'est ce que cristallise le jeune Manuel dans sa réflexion sur l'amitié et l'amour.
Sublime de Mariano Biasin est en salle depuis le 17 mai. Du Chabrol dans un univers prolétaire, ai-je lu. C'est la fille d'Albino Rodriguez. Nous en parlons dans Cinérama.
Par ici, s'il vous plaît.
Cinérama.
Ah, mais avec joie.
Salut, c'est Albino. Vous pouvez me laisser un message.
C'est pas la guerre, je sais pas quoi faire. Pourquoi il est pas venu me chercher, Pili?
Il a pas pu venir parce qu'il est à l'hôpital.
Quoi?
Il était cardiaque, ça lui pendait au nez. Hein.
Un sentiment d'urgence émane du deuxième long métrage de Christine Dory, après Les Inséparables, qui date déjà de 2008, ou du moins une impression de rentrer d'emblée dans le vif du sujet, sans détour inutile ni exposition laborieuse. Rosemey, 16 ans, munie de son sac à dos, attend devant la gare de Metz son père, Albino Rodriguez, qui ne vient pas la récupérer. Plus inquiétant, il ne répond pas au téléphone. Elle se rend chez sa mère qui lui raconte que son père est malade, hospitalisé très loin du domicile. La situation est particulièrement gênante, déstabilisante, incitant le spectateur à recontextualiser le récit, à le construire, tant les non-dits abondent. L'attitude de la mère est si désinvolte et détachée que nous ne sommes pas sûrs de son statut. La raison de l'arrivée de Rosemey n'est pas très claire non plus. Évidemment, on apprend ensuite que la jeune adolescente vit dans une famille d'accueil et ne rejoint sa famille biologique que ponctuellement. Alors tout le film tourne autour de la présence-absence de Albino, ce père fantôme qui occupe les pensées de l'héroïne, qui retourne auprès de ses parents adoptifs après les vacances. Un couple d'agriculteurs aimants et très ouverts, incarné par Roman Boringer et le formidable Samir Ghesmi.
Je voudrais savoir si vous avez un certain Albino Rodriguez. Il aurait été transféré depuis l'hôpital de Mâcon.
Et dans quel service à l'hôpital central?
En réanimation. Vous êtes sûr qu'il a été transféré chez nous?
Faut que je te dise quelque chose de très important. Ton père a pas fait une attaque ni rien. La vérité, c'est que ton frère est dans la merde et ton père essaye de l'aider à s'en sortir. C'est tout.
La description du quotidien dans un faux style naturaliste évoque en surface, on dira comme ça, le cinéma des frères Dardenne ou pire, celui d'Emmanuel Berco, notamment dans cette vision un peu idéalisée des figures paternelles et maternelles de substitution. Alors on a un peu peur à ce moment d'un recentrage bien pensant du côté de la chronique sociale sur les bienfaits d'une éducation à la cool, mais un peu stricte quand même. Mais Rosemey n'arrive pas à oublier l'absence de son père et son intuition l'amène à mener son enquête. Proche de la déscolarisation, pas loin d'être illettrée, elle se fait aider par sa nouvelle demi-sœur, à peine âgée de 10 ans, bien plus douée pour écrire une lettre adressée à la police, puis au procureur de la République, qui finira par la recevoir. Ce qui peut paraître complètement invraisemblable, sauf que la fille de Albino Rodriguez s'inspire d'un fait divers qui n'aurait pas déplu en son temps à Claude Chabrol. La plupart des événements sont même fidèlement restitués, mais par l'étrangeté de l'écriture et la sécheresse de la mise en scène, Christine Dory s'écarte du drame familial sordide, très terre-à-terre, pour se frotter à une sorte de film noir, à la fois linéaire et très elliptique, conférant à l'ensemble une densité peu commune. Elle y greffe aussi une référence place très présente au western, subtilement amenée, hein, pas seulement par la présence d'un cheval, mais surtout par la manière de filmer la trajectoire mentale et physique de Rosemey, beau personnage de cinéma qui échappe à la sociologie de comptoir, dont l'intelligence intuitive l'amène à révéler au grand jour une vérité peu reluisante.
Madame la procureure de la République, je vous écris par rapport à la disparition de mon père. Ma mère propose chaque fois des nouvelles histoires, mais aucune qui résiste au temps qui passe, ni à mes questions.
Il s'est cassé avec une jeunette. Il m'a laissé tomber comme une vieille chaussette après 20 ans de bons et loyaux services.
Et il serait parti sans ses cartes de crédit, sans son passeport. C'est pas mon père, c'est pas sa voix. Demande qui c'est pas mon père, ça.
Qui parle, là?
Elle s'en fout de toi, de moi. Elle pense qu'à sa gueule. C'est une ordure, c'est pas une mère.
Face à Rosemey, hein, le personnage maléfique, hein, figure obligée bah, du film noir, hein, ou même du cinéma chabrolien, pour rester sur des terres francophones, est incarné par sa mère, antagoniste qui fait froid dans le dos. Alors sans crier gare, la réalisatrice dresse le portrait d'une femme manipulatrice, effrayante, détachée d'affect envers ses enfants et s'arrangeant avec la réalité sans jamais en mesurer les conséquences. Alors cette mère indigne est interprétée par la trop rare Emily Deakin, alors exceptionnelle comédienne, hein, révélée d'ailleurs par Rosetta, qui donne pourtant l'impression au départ, de jouer une fausse partition bah, qui peut gêner. Et c'est justement par ce décentrage, ce léger pas de côté, que l'actrice donne le meilleur d'elle-même et prend le risque de dérouter bah, en endossant le rôle d'une personne qui joue déjà mal son propre rôle et qui n'est jamais crédible quand elle ment ou fait semblant d'être touchée. L'insincérité du personnage, du coup, est remarquablement cernée par la cinéaste qui a dû demander à Emily Deakin de surjouer ou sous-jouer certaines situations pour laisser transparaître la nature véritable de ce monstre tellement ordinaire et pathétique. Alors, dans le rôle difficile de Rosemey, la jeune star montante Galatea Bellucci, également à l'affiche d'ailleurs en ce moment dans Chien de casse, hein, est formidable. Entre tragédie, comédie familiale, non dénuée d'humour d'ailleurs, hein, polar et road movie, la fille de Albino Rodriguez bah, affiche une belle singularité par cette manière de ne pas nous donner ce à quoi on s'attendait, de préférer la sortie de route, quitte à désarçonner en cumulant quelques invraisemblances. Bref, une jolie réussite et un film assez surprenant.
La fille d'Albino Rodriguez est en salle depuis le 10 mai. Nous ouvrons maintenant notre page dédiée au Festival de Cannes qui a commencé le 16 mai avec le film de Mai Wen, Jeanne du Barry. Avant de parler du film, on a pu voir Marine avant qu'elle ne prenne la route pour le festival.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Si ça ne vous plaît pas, c'est la même chose.
Bonjour Marine, tu as fait un petit crochet vers le studio de Cinerama avant de te rendre au 76e Festival de Cannes.
Un événement bah, qu'on va suivre tous les deux, Vincent, hein, au péril de nos vies, puisque les reportages en zone de conflit, ça nous connaît. Et voici donc eh bien, ce qui nous attend au cours des 10 prochains jours. Des stars, des caprices de stars, des polémiques de stars et un peu de cinéma quand même. Commençons avec les films les plus attendus de cette nouvelle édition. Wes Anderson va présenter Asteroid City en compétition officielle sous le regard absolument pas bienveillant de Ruben Östlund, grand gagnant de la Palme d'Or l'année passée et qui préside donc le jury cette année. Alors personnellement, je ne sais pas toi, mais moi je n'irai pas voir Asteroid City parce que tout m'énerve déjà dans ce projet. La bande-annonce avec des plans symétriques, le casting avec 18 noms connus, à part la présence de Sophia Lillis, excellente jeune actrice que l'on avait découverte dans le remake de ça. Donc j'annonce, Vincent, je te le laisse.
Mais je le prendrai d'ailleurs parce que j'adore Wes Anderson, donc moi j'irai.
En revanche, hâte de découvrir le thriller nazi de Jonathan Glazer, Zone of Interest. Très hâte également de découvrir le nouveau film de Justine Trier, dont j'avais beaucoup aimé Sibylle. Son nouveau film s'appelle Anatomie d'une chute et le point commun entre ce film et Zone of Interest, eh bien, c'est qu'ils ont la même actrice principale, Sandra Hüller. On va voir aussi également, si on peut avoir accès aux projections, ce qui n'est pas gagné car les séances des premiers jours sont déjà complètes, on va voir le dernier Hirokazu Kore-eda dont j'avais chroniqué Les Bonnes Étoiles ici il y a quelques mois et qui revient cette fois avec un film nettement plus sombre hein, que sa précédente chronique humaniste, Monster, Kore-eda qui avait déjà été palmé en 2019 pour Une affaire de famille. Et fantastique nouvelle, moi qui me plains toujours que les films soient beaucoup trop longs à Cannes, Almodovar revient avec un court-métrage Strange Way of Life avec Pedro Pascal. On aura également droit à une séance spéciale pour Indiana Jones et le cadran de la destinée, le cinquième volet dans lequel on verra un Indiana jeune, puisque rajeuni grâce à une intelligence artificielle utilisée par Lucasfilm. Et d'après les images dans la bande-annonce, eh bien, ce sera plus réaliste que le morphing de Hardisson dans sa dernière émission Hôtel du Temps. Et puis surtout aux côtés de Harrison Ford, on retrouvera l'excellente actrice et scénariste Phoebe Waller-Bridge, autrice et interprète de Fleabag. Passons aux polémiques à présent. Mai Wen, après son nullissime ADN il y a 2 ans, revient en ouverture du festival avec le film Jeanne du Barry, dans lequel Johnny Depp, un acteur américain, joue Louis XV, roi de France. Et Mai Wen elle-même joue la comtesse du Barry qui, lors de sa rencontre avec le monarque, avait 25 ans, alors qu'elle en a 47. Après, on ne va pas se plaindre que des femmes de plus de 45 ans s'écrivent des rôles plus jeunes dans un monde du cinéma qui les invisibilise, hein, clairement. Également, le retour de Catherine Corsini, malgré les controverses liées à des faits de harcèlement sexuel sur le tournage, sera quand même présentée en compétition officielle. Et ça tombe bien, ce sont les deux seuls films pour lesquels j'ai pu avoir une place. Voilà. L'un des enjeux du Festival de Cannes cette année, l'événement culturel, quand même, on le rappelle, le plus médiatisé au monde, c'est la préservation de l'environnement. En 2021, le festival s'était par exemple engagé à réduire le volume du tapis rouge de 50%. Mais dans le même temps, à Cannes, Uber propose toujours d'utiliser Ubercopter, c'est-à-dire un service privé de vol en hélicoptère qui relie Cannes à Nice ou inversement. Et on comprend quand même que ce service marche très bien puisque le prix n'est que de 160 euros par personne. À titre indicatif, avec l'inflation, c'est quand même quasiment ce que j'ai payé moi pour un aller simple en Ouigo pour venir de Paris jusqu'à Cannes. Pareil, le Festival de Cannes avait supprimé depuis 2 ans les petites bouteilles d'eau individuelles. Mais dans le même temps, on l'a appris récemment, Nicole Kidman, quand elle vient sur le festival, demande 40 bouteilles d'Evian pour se laver les cheveux. Ça n'est donc pas tout de suite que le tapis rouge va devenir vert. En tout cas, je peux déjà vous dire que j'ai eu le plaisir de voir 2 films qui vont passer à Cannes et qui m'ont particulièrement réjoui. Il s'agit de Riddle of Fire de Weston Razzouli, une sorte de conte de fées white trash qui sera présenté à la quinzaine des réalisateurs, et du Théorème de Marguerite, l'histoire d'une jeune mathématicienne réalisée par Anna Novion, qui sera présenté lui en séance spéciale. Je vous en reparlerai évidemment en détail quand ils sortiront dans les salles. Et on va finir sur une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il n'y a jamais eu autant de femmes en compétition officielle. Justine Triet, Ramata Toulaissi, Kaoutar Benania, Catherine Corsini, Alice Rohrwacher et Catherine Breillat, beaucoup trop d'œstrogènes sur le tapis rouge. On risque de littéralement glisser dessus en montant les marches. En revanche, mauvaise nouvelle, on va être sous la flotte pendant 10 jours avec un joli 11 degrés en soirée de prévu sur la Croisette.
À noter, mais même si tu ne pourras pas voir peut-être beaucoup de films de la compétition, il reste d'autres sélections. Hein, la quinzaine des cinéastes, rebaptisée quinzaine des cinéastes après avoir été longtemps la quinzaine des réalisateurs. Et puis, il y a aussi la semaine de la critique. Voilà, donc on verra des films à Cannes et on en reparlera tous les deux pour une émission spéciale sur la Croisette, comme on a l'habitude de le faire quand on est là-bas. Merci Marine et bon voyage.
This is Cinerama.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
Le Festival de Cannes.
C'est irrésistible en effet.
Parlons maintenant du film qui a fait l'ouverture donc de ce 76e Festival de Cannes. Il est français avec un acteur américain, c'est Jeanne du Barry de Mai Wen.
Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
Une invitation à quoi ?
À la bagatelle.
Le film a semé avec lui sa polémique autour du choix d'un acteur empêtré dans une querelle juridique, accusé de violence conjugale par son ex-épouse. Et puis l'actrice et réalisatrice Mai Wen, qui elle a reconnu avoir agressé le journaliste Edoui Plenel dans un restaurant, le directeur de Mediapart ayant porté plainte. Alors vu ce que pense Mai Wen du mouvement MeToo, on ne s'étonnera pas de ce bourbier. Alors ça fait beaucoup, mais oust, après la montée des marches, eh bien, le film Jeanne du Barry a donc été projeté. Le titre du film ne laisse aucun mystère, hein, il s'agit d'un film qui suit la trajectoire de Jeanne du Barry, qui fut la favorite de Louis XV. L'histoire de la comtesse du Barry, eh bien, c'est celle d'une fille de roturière aimant la lecture, instruite, qui parvient à s'extirper de son milieu en rencontrant un libertin, le comte du Barry. Et grâce également à Richelieu, elle parvient à ouvrir les portes de la cour de Versailles et le cœur du roi. En s'invitant à cette cour, elle y trouve des ennemis, notamment hein, les filles du monarque qui ne veulent qu'une chose, c'est l'évincer. Tout le film, et c'est normal, est tourné vers le personnage de Jeanne du Barry qui veut célébrer élevée de sa condition, qui s'accommode des beaux cadeaux du roi, comme elle s'accommodait auparavant de se faire détrousser par ce vieillard de Richelieu.
Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage.
Cette jeune femme est mon entourage.
Outre le fait qu'elle ait choisi un acteur avec des casseroles qui n'apporte pas grand-chose au rôle, on entend vaguement son accent, mais il parle peu. Ses dialogues auraient été d'ailleurs coupés au montage. Il est très étrange que Mai Wen ait choisi de nous raconter cette histoire. Il s'agit quand même de la cour de Versailles avec ses us et coutumes et révérences. Et si on parle de transfuge, soit quelqu'un qui change de milieu, le milieu qui est atteint sera celui dont les têtes seront coupées quelques années plus tard. De ce film, il ne faudrait retenir que le parcours de Jeanne du Barry, qui a fait preuve de tant d'adversité, qui s'est échappée du déterminisme social, qui a mis de la fantaisie dans la cour de Versailles. Toutefois, elle n'a pu le faire que parce que le roi le voulait, ce qu'on cherche à l'image. Leur amour, leurs sentiments, on est prié d'y croire et c'est tout. Ses seuls ennemis, eh bien, sont des femmes, ses amis des hommes, et tous ne couchent pas avec elle. Ouf. J'ai lu que ce film était contemporain, alors il me semble pourtant qu'il passe complètement à côté des questionnements actuel. Après, cinématographiquement, le film a de l'allure, les acteurs sont pomponnés, déclament, cabotinent, un film de cours. Avec le cadre, Mai Wen sert ses personnages et s'écarte de ce dispositif quand il s'agit de montrer Versailles, un milieu à part entière. Pour les anti-royalistes convaincus comme moi, ce film est vain car politiquement vide, clos sur lui-même, un peu insupportable, même si le geste cinématographique est bien présent. Quant à Johnny Depp, la réalisatrice aurait pris un porte-manteau, ça aurait tout à fait l'affaire. Si vraiment on veut un film en costume qui parle de transfuge, qui tourne mal lui aussi, et qu'on veut du Barry, eh bien mieux vaut se voir ou se revoir Barry Lyndon.
Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour.
Le roi a d'autres maîtresses.
T'es en train de découvrir le côté sombre du roi.
Le Festival de Cannes nous donne l'occasion de jouer un blind test un peu particulier. Vous allez avoir l'occasion de chercher des titres de films qui ont remporté une palme d'or. Alors, ce sont tous des films qui ont remporté cette palme après les années 2000. Attention, premier extrait.
Je n'ai jamais manqué un jour de travail.
Mère.
J'ai donné à la quête tous les dimanches.
Vous vous débattez toujours en moi. Vous vous débattrez toujours.
Tu sais, Jack, j'ai jamais rien voulu d'autre pour toi. T'apprendre à être fort et grandir et devenir ton propre patron. Je sais pas, peut-être que j'ai été dur avec toi. Ça me rend pas fier.
Je suis aussi mauvais que toi. Je suis plus comme toi que comme elle.
C'est trouvé, Guillaume.
Oui, c'est Tree of Life de Terrence Malick, la Palme d'Or 2011.
Oui, bien joué avec Brad Pitt, la voix française qu'on entend ici. Il y a aussi Jessica Chastain et Sean Penn qui fait office de voix off et qu'on voit aussi. Alors, conçu comme une épopée cosmique ou un hymne à la vie, ce film porte un regard croisé sur la genèse de l'humanité et la jeunesse difficile d'un garçon des années 50 face à un père obsédé par la réussite de ses enfants. 872 000 entrées en France pour ce film, donc qui a obtenu la Palme d'Or en 2011. Deuxième extrait de ce blind test donc consacré aux Palmes d'Or à Cannes, des films qui sont sortis après les années 2000.
Elle a peut-être l'air douce comme un petit agneau, mais elle tient bien plus du loup. Parfois, elle se comporte comme si c'était elle, la maîtresse de maison.
Oui, c'est exactement ça. De tous les habitants de la maison, c'est elle qui est là depuis le plus longtemps. Elle était déjà gouvernante du temps de Namgong, l'architecte. Et ensuite, elle est restée au service des nouveaux propriétaires. Et quand l'architecte a vendu la maison, il l'a présentée lui-même à monsieur et à madame Park. Il leur a dit, c'est une formidable gouvernante, vous devriez la garder.
Donc elle a survécu à un changement de propriétaire.
Une aussi bonne place, elle s'y accroche à fond.
Si on veut déloger une bonne femme comme elle, il faut qu'on soit au taquet.
ça a été trouvé, Guillaume.
C'est Parasite de Bo Zhuang. C'est oui. Palme d'Or 2019, c'est ça?
Oui, bien joué. Toute la famille de Kitek est au chômage et s'intéresse fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours particuliers d'anglais chez les Park et c'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira véritablement indemne. 1,8 million d'entrées en France, un film qui a excellemment bien marché et qui a été récompensé du César du meilleur film étranger et aussi de l'Oscar du meilleur film et ainsi que la meilleure réalisation aux États-Unis. Ce film de Bong Joon-ho. Troisième extrait de ce blind test, un film totalement différent.
Ce garçon avait surpris un individu quelconque qui était en train de se nuire en abusant des nerfs les plus sensibles de son corps, là même où la loi divine a érigé des barrières sacrées. Le jeune garçon a ensuite imité ce geste et il n'a jamais pu arrêter de le faire. Il a si affreusement détraqué tous les nerfs de son corps qu'il a fini par en mourir. Je veux t'aider, mon fils. Crois-moi, je t'aime de tout mon cœur. Sois sincère, Martin. Pourquoi as-tu rougi et commencé à t'agiter en écoutant l'histoire de ce garçon ?
Rougi ? Je n'en sais rien, je le plains, il me fait de la peine.
Alors, bah, c'est de Sol dans les studios, pardon ?
Le fils de Sol, non ?
Non. Alors, c'est un réalisateur qui a déjà obtenu plusieurs palmes d'or. Ça, c'était sa première. Là, c'est un film qui nous plonge dans un village de l'Allemagne un peu avant la Première Guerre mondiale.
Ah, c'est le ruban blanc.
Oui, ouais. Oui. Et d'étranges accidents surviennent et prennent peu à peu le caractère d'un rituel punitif. Et là, on voit le rapport d'un père à son fils. Il est question de la masturbation. Le ruban blanc de Michael Haneke, 649 000 entrées en France. Il aura une nouvelle palme d'or pour Amour en 2012. À noter qu'il a eu 8 films en sélection officielle. Ça fait partie des réalisateurs fétiches. Quatrième extrait de ce blind test consacré aux palmes d'or après 2000.
Mademoiselle, je crois que tout ça commence très mal. Je vous ai demandé deux choses au téléphone. De prendre une chambre soit à l'Uniria, soit au Moldova, et de venir personnellement au rendez-vous. Vous croyez que je vous ai demandé ça comme ça, pour rien ?
Non, non, j'ai compris ce que vous m'avez dit, mais ailleurs, on n'a pas trouvé de chambre.
Je sais, votre sœur me l'a déjà dit. On aurait dû attendre jusqu'à ce que vous trouviez. Ils ont pris mes papiers à la réception.
Oh, je suis désolée.
Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse ? Moi, mes papiers sont en bas.
Je voulais pas reporter la date, j'ai déjà attendu un peu trop.
Oui, je crois que
4 mois, 3 semaines, le film de
Christian
Mungiu, c'est ça, ouais, voilà.
C'est ça. Tu as tout dans l'ordre, 4 mois, 3 semaines et un jour.
Et un jour, voilà.
Palme d'Or 2007, nous sommes en 1987 en Roumanie, alors quelques années avant la chute du communisme. Otila et Gabita partagent une chambre dans la cité universitaire d'une petite ville. Gabita est enceinte et l'avortement est un crime à cette époque. Et les deux jeunes femmes font donc appel à un certain Monsieur Bébé pour résoudre le problème. 297 000 entrées en France pour ce film roumain. Dernier extrait de ce blind test, Palme d'Or après 2000.
Ouais, je trouve que ça n'a rien de sexy de parler d'argent.
D'accord. Mais d'après toi, c'est dû à quoi ?
J'en sais rien, c'est pas sexy, c'est tout.
Tu crois pas que c'est parce que c'est lié à la définition des genres ? Putain. Le menu qu'ils t'ont donné tout à l'heure, il avait même pas de prix.
C'est pas juste, Karl. C'est pas rare que je paye.
Non, je parle pas de toi, là. Je parle des femmes, en général.
Je me considère comme quelqu'un de généreux, tous mes amis te le diront.
Oui, bien sûr, t'es généreuse, mais... Des fois, j'ai l'impression que toi et moi, en tant que couple, on joue des rôles. Que je déteste. Ça me gonfle de jouer le mec. Que toi, tu joues la femme. Je veux qu'on soit meilleurs amis.
J'ai pas envie de coucher avec mon meilleur ami.
Non, c'est pas... Je crois que tu comprends pas ce que je dis. Il faut qu'on évite de tomber dans les rôles masculins, féminins, hyper stéréotypés, comme font plein de gens.
Alors, j'aurais préféré laisser cette séquence en entier. Elle est un tout petit peu plus longue. On entend le bruit de l'essuie-glace arrière. C'est...
Sans filtre.
Oui, de Ruben Östlund, soit Triangle of Sadness, en version originale, sachant que bien c'est le réalisateur suédois qui a été choisi pour être président donc, du jury de cette 76e édition. Et c'est la Palme d'Or 2022 du Festival de Cannes. Après la Fashion Week, Karl et Yaya, couple de mannequins et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Et tandis que l'équipage est aux petits soins avec les vacanciers, le capitaine, lui, refuse de sortir de sa cabine alors que le fameux dîner de gala approche. Et là, ensuite, eh bien, les événements prennent une tournure inattendue et les rapports de force s'inversent lorsqu'une tempête se lève et met en danger eh bien, le confort des passagers. C'était la seconde Palme d'Or décernée à Ruben Östlund après The Square en 2017. Et à noter que Snow Therapy, son film précédent, avait remporté le prix du jury Un Certain Regard. Autant dire qu'il est aussi très apprécié, un peu comme Michael Haneke, il est très apprécié du festival. 568 000 entrées en France pour ce Sans filtre de Ruben Östlund. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré au Festival de Cannes. Et c'est ainsi aussi que se termine Cinérama.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai ?
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
On se retrouve la semaine prochaine, nous serons sur la croisette pour une émission qui sera eh bien, faite sur la croisette au milieu du monde. Mais chers messieurs, vous resterez dans les studios et vous aurez un film chacun.
C'est ça, moi je reste en Argentine, mais que ça se passe à Madrid, c'est La Maleta de Jorge Dorado.
Et moi je serai en Irlande avec Face Cachée.
Bon festival, à bientôt.